Jeff Fortin et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin, Pascal CV. Votre émission du midi, de midi à 14h. Énormément de sujets à parler aujourd'hui. Évidemment, on va revenir sur l'entrevue de M. Wu et Louis Campagna, ex-président du conseil de quartier de Saint-Roch, concernant les prises de position sur l'itinérance et le retrait de Napoléon Wu de l'équipe de Leadership Québec. On va parler de ça avec Antonine dans le caucus. On aura aussi Joanie Fortin qui va venir nous joindre pour parler du défi Kilimanjaro avec Pascal CV. Marc-Antoine Reed m'a dit qu'il était un petit nerveux excité un matin. T'es comment, toi?
Ouais, on est un peu dans la fébrilité, honnêtement. Ouais, moi, j'ai texté Marc-Antoine en fin de semaine en majuscule. Ouais. J'ai juste écrit « Comment ça va? »
C'est ça.
On se comprend, là. on est un peu... Dans la fébrilité, on pèse nos bagages. Là, c'est trop lourd. Faut enlever du stock. Là, ça vient stressant. Mais tu sais, on est là-dedans, mais on sait qu'on va vivre une superbe aventure.
Mylène Moisan va venir nous parler également de ce refus de la Cour suprême d'entendre la DPJ qui tentait de se protéger d'une faille, malheureusement, un enfant là, qui a été... ça a pris 5 signalements de violence avant, justement, qu'on le retire de sa famille. On aura Rémi Villemur qui va nous parler du retour de Jimmy Kimmel, puis un petit bilan de Valérie Plante à la tête de Montréal. Et on aura également Valérie Courchaine, une spécialiste, qui va venir nous parler. C'est vrai que le tinénol, ça cause l'autisme?
J'ai tellement hâte de l'entendre. Là. Hier, quand je fin de journée, les yeux embrouillés, je regarde
je croyais
ça,
pas,
ping, moi. Voyons... Quoi? Donald Trump qui veut passer un genre d'avis pour que les femmes enceintes prennent pas de Tylenol parce que là, ça cause l'autisme.
Tu sais que Donald Trump, tout à l'heure, devant les représentants de l'ONU, a dit « Moi, j'ai mis fin à 7 guerres en 7 mois. Je les cherche encore. » À quelle guerre?
Mais c'est le pire, c'est qu'il y a des gens qui croient ça. Ils entendent ça. Comme, ben voyons, chose.
Ah ouais, la Russie n'a jamais été dans un état aussi lamentable.
Il n'a jamais mis fin à ma guerre personnelle contre lui, qui est juste de trouver un peu de jugement là, dans tout ça depuis son élection.
Ah, j'écoutais ça, c'était surréaliste. Là, tu vois les gens à l'ONU qui regardent, on dirait que personne n'ose parler ou rire. En tout cas, bref, c'était très, très, très particulier comme ambiance à l'ONU. C'est l'heure, on commence immédiatement ce mardi avec
le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Antonine Iaccarini, comment ça va?
Ça va bien.
Good. Donc, parles-tu d'itinérance et de Napoléon Wu? Qu'en penses-tu?
Ça fait tellement réagir, cette affaire-là. Tout le monde parle de ça. Cette tournée d'entrevue de M. Wu, vous l'avez reçue ce matin.
Ouais.
Il persiste et signe.
Oui, c'est ça. Il persiste et signe. Il y a des... Mettons qu'il y a des entrevues émotionnellement plus faciles que d'autres. Moi, ça vient beaucoup me chercher quand on vient parler, là, justement, contre les gens qui accompagnent les personnes itinérantes. Ils n'ont pas toujours les pistes de solution parce que ce n'est pas toujours facile, mais ils font un travail remarquable, honnêtement. Et quand tu dis le persiste et signe, bien justement, je vous fais entendre le premier extrait où il reste dans sa position.
Et c'est la vérité, là, tu sais, le culte de l'itinérance, là, comme j'ai dit, là, tu peux vivre à Québec sans travailler, vous êtes nourri, logé, des vêtements gratuits, là. Personne n'est obligé de travailler à Québec pour vivre, je le répète, là.
Oui, donc vivre dans la rue, c'est vraiment bien. Je veux dire, les gens qui vivent dans la rue sont dans le confort de la rue à moins 20 en plein mois de février à quêter un repas à l'Aube-Rivière. C'est ce que M. Wu croit. Samamad l'a expulsé, justement, de Leadership Québec. Est-ce que Samamad n'aurait jamais dû le présenter? L'expulsion est une bonne décision, mais en même temps, il l'a présenté vendredi passé.
C'est toujours le pire des deux mondes d'accueillir un candidat dans ton équipe et d'après l'expulser. C'est sûr que ça aurait été préférable d'avoir une discussion au préalable puis de dire « Écoutez, je respecte votre opinion. Vous faites des constats. » Je pense que c'est des constats qui sont partagés par plusieurs commerçants du quartier et tout ça. Mais vous comprenez qu'il y a certains éléments dans ce que vous dites qui ne sont pas conformes aux valeurs qu'on veut véhiculer comme équipe. D'ailleurs, c'est ce que M. Hamad a dit. Le vocabulaire de M. Wu ne correspond pas à nos attentes, ne correspond pas à nos valeurs. On le voyait tout de suite dans le visage de sa maman de la semaine passée en point de presse.
Oui. Ben d'ailleurs, j'ai écouté le reportage d'Olivier Lemieux sur Radio-Canada et clairement, Napoléon Wu parle, tu vois la face de sa mamade changer et sa mamade s'interpose pour venir tempérer. Donc, déjà là, moi, je me disais, le mariage est fini. Là.
C'est terminé. Puis sa mamade disait, je pense que ce que M. Wu veut dire, c'est ça. Non, non, c'est pas ça qu'il a dit. Puis non. À part de ça, on a eu la preuve que c'est vraiment ça qu'il disait. Les paroles qu'il a dites en point de presse sont les mêmes qu'il a répétées en tournée d'entrevue aujourd'hui. Donc, je pense pas que M. Wu avait caché ça là, avant. Là. S'il y a quelqu'un qui a pris le temps de lui parler avant, c'est ça ce qu'il pense.
Bien, Stéphanie Martin a fait un excellent article justement dans le Journal de Québec hier où elle est allée rechercher ses déclarations de 2023. Et en 2023, il dit, puis là, tu sais, j'ai pas les mots exacts, là, je l'ai pas devant moi, mais dans le fond, ce qu'il dit, c'est on va prendre les itinérants, on va les envoyer se désintoxiquer dans la vieille centrale de police qui est remplie de rats, de coquerelles, et etc. Ben oui. Là. Puis comme ça, ils traîneront plus dans la rue. C'est ça qu'il dit.
Bon, c'est ça. C'est des solutions qui ne sont pas nécessairement réalistes, mais ce qui est grave aussi, c'est vraiment les propos qui viennent renforcer les préjugés. Parce
vraiment.
Que moi, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de débat ici. Le premier niveau de débat, c'est de reconnaître que c'est une problématique. Il y a des gens qui ne reconnaissent même pas, qui ne veulent même pas qu'on en parle, j'ai l'impression. Puis ça, je l'entends souvent, puis il faut le dire, de personnes plus à gauche, plus qui se disent progressistes, mais qui ne veulent pas qu'on parle de ça, puis qui disent il faut cohabiter. C'est de l'intolérance de parler qu'on veut réduire l'itinérance dans les rues. Là, je caricature.
Non, et ça, honnêtement, moi, je fais une critique à l'administration Marchand et à Pierre-Luc Lachance, qui était le conseiller de Saint-Roch-Saint-Sauveur, qui, pendant pratiquement un an, on dit faut pas en parler parce que le monde ne viendra plus à Saint-Roch. Oui, mais c'est parce que ça existe.
Ça marche pas de même, la vie. Là.
C'est ça.
Il faut en parler. Je pense qu'il y a personne qui doit être censuré, qui doit se censurer. Par contre, après, ben, il y a le débat sur le niveau de compréhension de ce que c'est l'itinérance. Parce qu'il y a plusieurs choses aussi qui se mélangent à ça, notamment la toxicomanie, la santé mentale. C'est un sujet qui est complexe. Moi, c'est sûr qu'une personne qui arrive qui dit « Voulez-vous que je la donne, moi, la solution? » J'ai toujours un petit doute.
Il n'y en a pas de la solution.
Non, ça saurait là, s'il y avait la solution. Puis les solutions simplistes, comme envoyer tout le monde dans un grand building à quelque part, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a ces constats-là, puis ces propos-là, puis le niveau de vocabulaire aussi qui est choisi. Quand on dit « les gens ne meurent pas de faim, ils ont des grosses bedaines », moi, j'ai entendu M. Wu dire ça, les gens sont... les itinérants, ils ont des bedaines, ils sont bien nourris. Excuse-moi, là, mais ça, c'est aussi... On vient renforcer un autre préjugé, c'est que la pauvreté égale maigreur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Je veux juste vous dire, si vous mangez juste des cochonneries, puis vous en mangez, vous n'avez pas besoin d'en manger beaucoup, ça se peut, selon votre métabolisme, peu importe.
On a été martelés d'images de petits Africains avec le ventre super gonflé là, dans les pubs télé, mais c'est des gens malnutris. Là.
Donc, de toute façon, je veux dire, il ne connaît pas ça, il n'est pas médecin, il parle à travers son chapeau, puis il vient renforcer un préjugé que, finalement, il mange très bien à leur faim, que c'est comme un resort, dans le fond, être un itinérant à Québec. Puis c'est ça qui est venu déranger. Et après ça, il y a le débat sur les solutions qu'on devrait apporter à tout ça. Et là, ben les solutions, moi, je pense pas qu'il y ait personne qui a la solution, mais c'est vrai qu'il faut avoir une discussion sur la meilleure approche. Il faut se demander c'est quoi le rôle des policiers. Il faut se demander si on accepte aussi de faire certaines opérations, certaines mesures sur nos artères commerciales. Parce que j'entends M. Marchand, par exemple, qui dit « ben là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on les déporte à l'extérieur de la ville? Ça fonctionne pas comme ça. » Non, mais est-ce qu'on peut avoir une discussion sur comment on gère ça? Quand vous allez dans des villes touristiques ailleurs dans le monde, comment c'est géré? Est-ce qu'il y a des personnes désorganisées qui viennent vous déranger pendant que vous visitez la ville? Comment on peut gérer ça de manière humaine aussi? Comment on cohabite avec les organismes aussi qui sont sur place? Parce que tu peux avoir un organisme qui est dans un quartier, mais dépendamment comment c'est géré par l'organisme, ça va avoir un impact sur les résidents autour. Des fois, c'est mieux géré, des fois, c'est moins bien géré. Donc, toutes ces solutions-là, c'est ça qu'on veut entendre aussi de la part des équipes de campagne, mais aussi de la part des gens qui sont dans le quartier. Si on fait juste dire que ça n'a pas de bon sens puis que l'administration ne fait rien de correct, on n'avance pas dans le débat. Là.
Exactement. Il y a Pierre-Luc qui nous écrit « Les pays scandinaves, ça fonctionne très bien, en effet. » Puis c'est une solution, et ça, c'est Éric Boulay qui me l'a expliqué, le directeur général de l'Aube-Rivière. C'est une solution à plusieurs plateaux au niveau scandinave. On les accompagne en premier lieu, comme le projet Porte-Clé fait ici à Québec. On les sort de leur dépendance, on les met dans un logement, on les accompagne pendant un an, réinsertion à l'emploi, et là, ces gens-là volent de leurs propres ailes. Et ça prendrait justement plus de projets comme ça à Québec. C'est ce qui manque. Manque d'espace. Le répit Basseville, présentement, manque d'espace. Fait des demandes au niveau gouvernemental. Tente d'aller chercher de l'argent privé pour avoir des locaux plus pérennes. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Si eux avaient plus d'espace, il y aurait moins d'itinérance lourde dans la rue à l'heure actuelle. Et c'est le programme qui le suivrait. Justement, parlant là, de préjugés véhiculés par M. Wu, on écoute l'un de ces préjugés aujourd'hui et ma réaction peut-être un petit peu émotive.
Moi, je voulais qu'Edmond sache que ce qui se passe à Saint-Roch.
Ouais.
Qu'il y a une culture d'itinérance, l'industrie de l'itinérance, où ils profitent de ces gens-là, puis ils font de l'argent avec ces gens-là.
Et pourtant, la plupart des gens qui travaillent pour ces, ces organismes-là, c'est pas des gens qui gagnent énormément, vous le savez. C'est des gens de cœur, là.
Les gens de cœur, c'est des grunts là, qui travaillent sur le terrain, là. T'as des directeurs puis des assistants directeurs, là. Puis ils gagnent tout. Ils sont supposés exposer le salaire. Vous avez juste à regarder ça.
Je me permets juste un commentaire. Donc, pour vous, Éric Boulay, qui est directeur de la maison L'Aube-Rivière... Il gagne trop cher, puis c'est pas une bonne personne, travaille pas pour les gens d'itinérance, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Non, non, je sais pas c'est quoi le salaire d'Éric, là, mais je parle des organismes là, plus petits, là. OK. Éric, il a fait ses preuves.
Donc, les organismes communautaires travaillent pas pour l'itinérance, ils travaillent contre l'itinérance pour pouvoir continuer à avoir des subventions. Oui, parce que moi, je viens du domaine communautaire, là. C'est ça quoi, existe le... pas, ce que vous dites, c'est... là.
Oui, oui, ça existe. Vous ça avez existe juste à regarder dans le
zone. Non, 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 ça existe là. Pas, ce que vous dites, monsieur. Oui, il y a plusieurs préjugés là-dedans qui, je vais l'avouer, là, qui sont venus me chercher. Le premier, c'est au niveau des dirigeants d'organismes communautaires. Honnêtement, là, tu sais, je les connais, les salaires des dirigeants des organismes communautaires. J'ai été dans le CA d'un projet, justement, qui avait pour but de prendre soin des travailleurs qui travaillent dans le communautaire. Il n'y en a pas un dans Saint-Roch qui gagne au-dessus de 100 000 piastres.
Ben, en tout cas, s'il y avait moyen de faire fortune dans les organismes communautaires, ça se saurait. À un moment donné, il y a quelqu'un à quelque part dans un organisme qui a été beaucoup payé puis qui travaille? Sûrement là, qu'on peut trouver un exemple. Sauf que je pense que le constat le plus répandu et qui est le plus proche de la réalité, c'est de dire que les gens qui travaillent dans les organismes communautaires, ils ne font pas fortune, ils travaillent très, très fort dans un milieu qui n'est pas facile. Moi, je vous dis, je ne ferais pas ça dans
la vie. Vocation, okay?
C'est une vocation. Ouais. Donc, c'est vraiment dommage, ces propos-là de M. Wu, parce qu'en plus, il y a certains constats qu'il fait. Son écœurement, je le comprends.
Oui.
Mais de s'attaquer aux organismes, ça, je ne le comprends pas.
En effet.
C'est la mauvaise cible.
Ben oui, parce que c'est... S'il y a bien des gens qui peuvent t'aider à régler ta problématique dans la rue, c'est les organismes communautaires.
Hey, c'est les bras et les jambes qui vont nous aider à passer à travers cette crise-là. Donc, ça ne sert absolument rien de les attaquer. Puis quand ils répètent constamment ce mot « culture de l'itinérance
ouais. »,
et ça, là, c'est, je trouve que c'est parmi les termes les plus dommageables qu'ils utilisent, parce que c'est vraiment, on vient porter des intentions, prêter des intentions aux gens, comme s'il y avait comme un vaste complot. Puis il parle d'une industrie.
Que l'on fait exprès pour laisser du monde dans la rue pour avoir des jobs.
Non, mais je veux dire, c'est complètement... c'est complètement...
Exactement. Risqué. Nadine, quand j'entends les propos de M. Wu, je suis outré à l'entendre. C'est facile de sortir les itinérants de la rue. Certaines personnes, depuis leur plus jeune âge, n'ont jamais eu de structure de parents qui les ont aidés. Ils ne font confiance à personne. Ce n'est pas facile de les aider à s'en sortir. Tu as tellement raison, Nadine. Le directeur général de la maison Dauphine, lorsqu'on l'a eu en entrevue l'an passé, nous dit disait ça, qu'ils trouvaient des logements pour les gens de la maison Dauphine où on acceptait les animaux parce que la seule personne en qui ils font confiance, c'est leur chien.
Ben oui, souvent, ça peut être une limitation des fois pour se trouver un logement. Mm. Ce n'est pas facile de sortir quelqu'un de la rue et ce n'est pas facile de sortir quelqu'un de la toxicomanie.
Clairement,
d'ailleurs,
non.
Là, on en fait un grand débat autour de l'élection municipale, mais il y a beaucoup de tout ça qui est... Je pense qu'il y a pas mal de clés qui sont dans le système de santé. Ça, c'est pas nécessairement la municipalité, il y a de la coordination à faire. Mais notre lutte à la toxicomanie au Québec, il y a quand même encore du chemin à faire.
Clairement.
Juste dans la manière qu'on a des fois de stigmatiser ces personnes-là, de pas nécessairement les accueillir comme si elles avaient besoin d'un soin de santé. santé. Hein, on les traite beaucoup comme des criminels, des fois. Puis des fois, ils font des gestes criminels aussi, mais il faut être capable de faire la part des choses. Des personnes, des ex-toxicomanes peuvent vous en parler, comment ils ont été accueillis quand ils ont essayé de rentrer dans le système de santé. C'est pas toujours très, très positivement. On a du chemin à faire aussi à ce niveau-là.
Exactement. Un autre bon commentaire ici, j'ajouterais que le CIUS, qui est directement impliqué dans l'itinérance, devrait repenser leur manière de travailler. Le CIUS et la ville ont tendance à ajouter des couches sans se questionner. Ça, c'est tellement vrai. Je l'ai dit ce matin lors de l'entrevue, c'est un point que j'ai donné à M. Campagna, de dire, vous avez raison, au niveau gouvernemental, provincial, on ajoute des couches. Santé Québec en est un bel exemple. Ça, moi, je trouve que le commentaire est très approprié.
Très approprié. Puis ça nous rappelle aussi à quel point les organismes communautaires font un travail qui est extraordinaire, à moindre coût, des fois aussi, que le système de santé. Il y a vraiment un partage de responsabilités à faire. Des fois, on dit, oh, les organismes communautaires, il y en a trop. M. Wood disait, ils se dédoublent. Mais c'est parce que c'est des organismes qui s'articulent autour de besoins du terrain.
Exactement.
Alors que la bureaucratie provinciale, le système de santé, bien là, on fonctionne en direction, en programme, en, tu sais, c'est pas toujours agile non plus. Donc, il y a vraiment un travail de collaboration
clairement
à faire. Puis, il faut toujours se redemander, est-ce qu'on est vraiment dans la manière la plus efficace de fonctionner? Puis ça, je vais le donner à M. Wu, puis à sa maman, puis à tout ça. Il part un débat quand même.
Clairement.
J'espère qu'on va utiliser cette opportunité-là pour peut-être apporter des solutions qui vont améliorer les choses.
On conclut ce débat-là avec un excellent commentaire. Bonjour à vous deux. Comment on peut se loger avec un chèque de BS au prix que les loyers sont pas faisables de se loger? La vie d'un itinérant n'est pas facile et très dure sur l'ego. Une bonne raison de se geler le cerveau. En effet, il y a de la dépendance à la drogue, malheureusement, qui débute avec l'itinérance. Et l'itinérance, des fois, peut débuter avec une perte d'emploi, une séparation, un moment X dans ta vie
une
qui fait
maladie
en sorte que tu perds. Oui, une maladie mentale aussi.
J'avais consulté
aussi
ces gens-là à l'Aubrevière, puis quand j'avais fait le Vox Pop, les gens étaient sans dessus-dessous, puis moi-même. Quand tu te dis, je suis tombée malade, j'avais pas assez d'assurance, après, c'est suivi une séparation parce que le problème financier a détruit la famille. Je me suis séparée, ça a ajouté encore plus de difficultés. Mes enfants ne me parlent plus, je suis tombée dans le conso.
Non, en effet.
Mais on retient juste la conso du parcours.
T'as entièrement raison. Je termine sur M. Wu, Antonine. Je veux te faire entendre sa citation sur les médias.
La vérité, c'est que j'étais comme écœuré, là. J'étais tanné des médias, là. Des médias qui n'arrêtent pas d'être tapés sur nous autres, là. Sur tout ce que je dis. Tu sais, je suis souvent mal cité. Ils disent pas des vraies affaires. C'est Journal de Québec, puis toute la gang, Karine Gagnon, puis toute cette gang-là, il dit pas la vérité.
Je suis tanné, moi, qu'un politicien dise « Ah, les médias, les médias! » Sois bon, et les médias vont être bons.
Puis les médias l'ont accueilli, et lui ont laissé aussi l'occasion de passer son message. Fait que tu peux pas juste dire « ben laissez-moi parler, puis passer mon message, puis après ça, être en désaccord quand il y a un débat. » Puis moi, ça me fait rire. Ils disent pas la vérité, OK? Factuellement, quel mensonge a été dit dans les médias récemment?
Rien. On a repris ces posts Facebook qu'on les a mis dans les médias.
Il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que vous dites, autant chez les citoyens que chez les commentateurs dans les médias. Donc, mais il y a des gens qui écrivent puis qui sont d'accord avec M. Wu aussi. Mais ça fait partie de la vie. Des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, M. Wu, c'est pas les médias. C'est juste ça. Un reflet de la société.
Exactement. Puis il y a un excellent commentaire ici. C'est la vie que j'ai vécue pendant 5 ans. Même les organismes ont leurs problèmes. J'ai travaillé quelques années au communautaire. Les subventions sont souvent liées à des projets ultra précis. Et ça, là, c'est tellement l'enfer.
On l'entend tout le temps, ça.
Parce que tu voudrais être financé à ta mission. Puis là, les besoins de base de ta mission augmentent. Je vais te donner l'exemple, Patro Charlebourg, aide alimentaire. Avec la COVID, on a triplé le monde qui a besoin d'aide alimentaire. Mais là, il faut que j'invente un programme pour aller chercher de l'argent, pour l'accrocher à mon aide alimentaire. Ah, oh, la paperasse.
Oui, tu prends tout ton temps à faire de l'administratif. Puis tout le temps que tu mets à faire ça, ben, tu ne le mets pas à donner des services, finalement, à tes clientèles. Puis, il faut encore saluer. Encore une fois, il faut saluer à quel point les organismes communautaires jouent un rôle qui est important parce qu'ils ont l'agilité, justement. Il arrive une crise, puis tu as des organismes comme ça qui ont cette agilité-là de répondre aux besoins que, des fois, la machine gouvernementale n'a même pas la possibilité de faire aussi efficacement. Puis là, on les ensevelit sous de la paperasse, il faut qu'ils justifient chaque dollar. C'est important, c'est des deniers publics. Mm-hmm. Mais à un moment donné, est-ce que ça ne devient pas contre-productif alors qu'on devrait laisser ces gens-là travailler avec leurs clients?
C'est-tu un genre de... Je peux agir comme si je suis au privé, mais à la portion aussi gouvernementale, vu les subventions qui m'enquilosent un peu dans mon travail?
Bien, en fait, c'est qu'on devrait prendre les qualités du privé pour les OBNL, les organismes, parce que cette agilité-là est plus présente, mais on leur donne les désavantages du public vu que c'est de l'argent public. Donc, je pense qu'il faut juste arrêter de sortir. Il faut se sortir, en fait, de ce carcan gouvernemental où on essaye de mettre la pensée fonctionnaire, ministère, à des organismes. Ça ne s'applique pas toujours. Puis le financement au projet, c'est correct qu'il y en ait un peu. Mais ça ne peut pas être que ça, à un moment donné. Puis il faut comprendre aussi que tu vas avoir un meilleur retour sur investissement des fois quand tu fais du financement à la municipalité.
On parle de guéguerre ici politique à Québec, mais à Montréal aussi, il y en a toute une, Antonine. Et je te lis justement ce que Valérie Plante a dit hier sur Craig Sauvé. « Monsieur Sauvé a tenté jusqu'à la dernière minute de revenir dans le caucus de Projet Montréal », a déclaré la mairesse en marge d'une annonce justement sur l'itinérance. « Le problème, c'est que ce n'est pas possible pour le parti étant donné l'allégation d'agression sexuelle qui a pesé sur M. Sauvé ces dernières années. » Là, Craig Sauvé est en train de mettre à mal l'ancien parti de Valérie Plante, et puis c'est Luc Rabouin qui est pogné avec ça. Là.
OK. Petit topo là, de l'élection municipale à Montréal. Luc Rabouin a repris le flambeau de Projet Montréal, se présente à la succession de... Bon, en fait, il est le successeur de Valérie Plante, mais se présente maintenant pour devenir le maire de Montréal. Craig Sauvé, c'est un ancien de Projet Montréal. Puis c'est vrai qu'il y a eu des allégations d'agression sexuelle, mais il n'y a pas eu de suite à tout ça.
Il n'a pas été reconnu coupable, il n'a même pas été accusé.
Et il y a beaucoup de gens qui le soutiennent. Donc, après ça, je laisse aux gens se faire leur propre opinion autour de ça. Là, j'ai vu notamment une publication de Luc Ferrandez, ancien de Projet Montréal aussi, qui le soutient à 100% dans tout ça. Bon, il y a des gens qui s'en sont mêlés. Mais cette attaque-là de Valérie Plante envers Craig Sauvé, pourquoi elle l'a fait à ce moment-ci? C'est qu'il y a pas mal de gens de Projet Montréal. Une fois que Craig Sauvé a lancé sa campagne à lui avec son nouveau parti Transition Montréal, il y a des gens qui étaient dans Projet Montréal qui ont décidé de suivre Craig Sauvé. Donc là, il y a eu un petit exode. Certaines personnes, dont la directrice de campagne de Luc Rabouin, qui a décidé d'aller avec Craig Sauvé.
C'est vrai.
Alors, c'est un peu la panique à bord. Et ce genre d'attaque-là, mais c'est une attaque qui est plus personnelle, on s'entend. On n'est pas sur les idées, on n'est pas sur la vision de Craig Sauvé pour la ville de Montréal. Je ne suis pas convaincue de l'efficacité de cette stratégie-là. Premièrement, parce que ça fait un peu cheap, puis peut avoir un effet boomerang, puis on le ressent déjà un peu beaucoup. Mais aussi, ça donne énormément d'importance à Craig Sauvé, qui était un peu le troisième joueur dans cette course-là. Puis Soraya Martinez, qui est la chef d'Ensemble Montréal et qui aspire aussi à devenir mairesse pendant ce temps-là, elle doit être morte de rire chez elle.
Bien, dans le fond, ce qui se passe à Montréal, c'est comme ce qui se passe à Québec. À Québec, Sam Hamad se chicane avec Stéphane Lachance. Donc, Bruno Marchand est assis dans le siège du conducteur puis il est mort de rire.
Et puis attends, Claude Villeneuve attaque Sam Hamad aussi.
C'est ça, exactement.
Tout le monde s'attaque.
Soraya Martinez, c'est la même chose. Elle est assise. Chicanez-vous, les amis. Partagez-vous le vote. C'est moi qui va rentrer. Soraya Martinez, je la connais pas beaucoup, mais est-ce que ça serait une bonne candidate pour être mairesse de Montréal?
En fait, c'est une ancienne ministre fédérale. Elle était députée d'Hochelaga au palier fédéral. Elle est devenue ministre assez tardivement là, pendant les mandats de Justin Trudeau, ministre du Tourisme, Développement économique. C'était une députée extrêmement appréciée, même par des gens qui ne sont pas des libéraux à Montréal. Donc, les acteurs clés économiques et dans le domaine du tourisme l'appréciaient beaucoup, bonne réputation. Donc, c'est une candidature qui est sérieuse, somme toute. Puis, elle arrive dans un moment aussi qui est bien particulier parce que Valérie Plante quitte. Donc là, on est à la croisée des chemins. Luc Rabouin n'a pas tout à fait la même envergure, j'ai envie de dire, le même charisme
c'est
que Valérie Plante.
C'est beaucoup peintureux aussi en étant le maire du plateau Mont-Royal.
Ben, c'est ça. Donc, il y a tout ça. Puis on sent aussi, tu sais, de manière plus globale dans notre société, une certaine fatigue de la gauche en ce moment.
Oui.
C'est moins à la mode. Okay? L'environnement, c'est moins à la mode. Ma chronique de ce matin, d'ailleurs, sur Nouveau Info parle de ça.
C'est-tu depuis le contexte économique bouillant?
Ben, c'est avec la crise commerciale. Évidemment, au palier fédéral mène la charge. Là, on est dans les pipelines, puis on enlève des lois environnementales, puis on annule la taxe carbone. Donc, il y a une opportunité quand même pour Soraya Martinez qui, sans être nécessairement une candidate à la mairie de droite, à la rive du PLC puis du Justin Trudeau, là, on ne se fera pas à croire qu'elle est à droite, mais elle a laissé entendre, c'est par exemple, peut-être qu'on pourrait se calmer les nerfs sur les pistes cyclables.
Ouais,
elle a fait une espèce de chant de sirène là, pour attirer les gens qui sont écœurés en fait, de projet Montréal. Donc, on verra. La campagne à Montréal, ce qui la caractérise beaucoup aussi, c'est que les gens ne connaissent pas les candidats. En fait, cette campagne-là a démarré, puis j'ai vu plusieurs vox pop. Là. Les journalistes se promènent dans les rues, puis c'est qui les candidats à la mairie? Puis les gens sont comme, il y a la fille, là!
C'est rafraîchissant, tu penses, en politique? Ou c'est plus handicapant en ce moment?
En fait, quand t'as pas de notoriété dans une ville aussi importante que Montréal, moi, je pense que ça démontre... En fait, ça dit rien sur les candidats. Ça dit quelque chose, je trouve, sur l'état de la démocratie municipale puis le niveau d'intérêt aussi de la population. C'est pas vrai que tout le monde connaît les politiciens non plus dans la rue. Là, faut pas se compter.
L'état de notre métropole aussi. Au Saguenay, André Laforêt se présente comme indépendante. Puis ça, c'est le rêve de plusieurs personnes ici à Québec de dire un maire indépendant, il y a pas de ligne de parti, il va être obligé de travailler en coalition. Moi, je suis de l'autre école, que j'aime bien ça qu'il y ait des partis politiques avec des lignes claires, des plans de partis clairs, parce qu'après ça, je peux juger s'ils ont tenu leurs promesses ou non, puis au moins quand je vote, je sais pourquoi je vote.
Ouais, parce que quand on se présente comme ça, comme indépendant, on y va un peu plus autour de notre personnalité, notre notoriété. Mm-hmm. André Laforêt, elle a des bonnes chances de l'emporter en passant, là. C'est une personne qui a une grande notoriété. Elle était ministre régionale et elle était ministre des Affaires municipales. Puis elle a fait beaucoup de choses pour sa région là, pendant qu'elle était ministre, ministre responsable.
Puis Lambert Drainville nous disait dernièrement qu'il avait fait le tour du Saguenay avec, puis il disait « Écoute, c'est la reine du
Saguenay. » Oui, c'est sûr. Elle a un avantage non négligeable sur ses adversaires. Elle était ministre responsable de la région. Elle pouvait donner des nananes aussi à tout le monde. Il ne faut pas se compter d'histoire. Ça doit faire un petit moment là, qu'elle réfléchissait à aller à la mairie. D'ailleurs, je dis ça, je dis rien. Cela dit, à Saguenay, c'est une situation qui est spéciale aussi parce que la mairesse actuelle est dans des démêlés judiciaires. Elle a fait appel, a été reconnue coupable d'un crime et elle a fait appel. Donc, elle se présente quand même. Il y a vraiment une occasion sans précédent là, pour André Laforêt. Le timing est vraiment bon. Mais c'est vrai que se présenter comme indépendant, comme quand tu es une personnalité comme celle-là, bien, c'est facile. Mais après, il faut que tu sois en mesure d'aller chercher des conseillers municipaux de ton bord. Parce qu'on en a vu des conseillers municipaux complètement dysfonctionnels. Là, je fais le lien avec une autre municipalité à surveiller pour cette élection. Absolument, pour l'élection municipale, Sherbrooke. Donc, la mairesse, Evelyne Baudin, ne se représente pas. Elle a eu un mandat qui a été extrêmement difficile avec un conseil municipal dysfonctionnel. Elle avait beaucoup de difficultés à aller chercher l'aval des conseillers municipaux. Puis pourtant, elle en avait... elle avait un parti, Evelyne Baudin, mais ça a été extrêmement difficile. Puis je fais un comparatif avec Gatineau parce que l'ancienne mairesse France Bellil, quand elle a démissionné, bien ça, c'en était une mairesse indépendante qui n'avait pas d'équipe autour d'elle puis qui a trouvé ça extrêmement difficile après d'essayer d'aller chercher l'aval de ses conseillers. Elle n'avait aucune emprise, dans le fond, sur son conseil municipal. Et au municipal, c'est pas comme au provincial. C'est-à-dire que c'est pas toi qui choisis ton conseil des ministres.
Non, c'est ça.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, si t'as pas une majorité des conseillers qui sont de ton bord, bien, ça peut devenir extrêmement compliqué de passer tes politiques. Donc, le passage d'Evelyne Baudin à Sherbrooke, ça a été un peu compliqué. Et là, il y a l'ancienne ministre. Les anciens ministres fédéraux se recyclent en politique municipale. Les provinciaux aussi, d'ailleurs. Marie-Claude Bibeau, qui a été ministre de l'Agriculture, notamment, sous le gouvernement Trudeau, qui fait campagne en attaquant le style d'Evelyne Baudin, en disant « Nous, là, on va pas être dans la chicane, là, ça va bien se passer, mais c'est une attaque envers Evelyne Baudin.
Ça, c'est tous des gens et des politiciennes qui avaient quitté quand le feu était pris dans le PLC.
Ils ont peut-être regretté un petit peu après.
Ça, avec Mark Carney. On termine le caucus Iacarini à peu près en 2 minutes avec cette annonce pour le moins invraisemblable.
The meteoric rise in autism is among the most alarming public health developments in history. There's never been anything like this. I want to say it like it is. Don't take Tylenol. Don't take it if you just can't. I mean, it's fight like hell not to take it. There may be a point where you have to, and that you have to work out with yourself. So don't take Tylenol.
Surréaliste.
Ça n'a pas de sens ce qui se passe en santé aux États-Unis. T'es en Floride, plus besoin de vacciner le monde. Il n'y en a pas de problème.
Ça aussi, ça donne l'autisme. Hein, ça.
Le vaccin, oui. Ouais,
je suis sarcastique
ça,
en passant.
Non, ça n'a plus de sens ce qui se passe. Tu sais, peut-être en une minute, Antonine, comment tu trouves la situation? Parce que c'est très préoccupant. Ça reste qu'on a une méchante grande frontière avec les États-Unis.
Les décisions des États-Unis en santé nous touchent. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Les virus, notamment, ils reconnaissent pas les frontières. Il ne faut pas demander d'asile en arrivant.
Le dernier qui est arrivé partait de la Chine, on se souvient.
Ouais. On se souvient, puis c'est allé assez vite. Je ne vais pas tomber dans les aspects médicaux. Puis, de toute façon, vous avez une entrevue un petit peu plus tard dans l'émission.
Oui, on va parler avec Valérie Courchaigne, qui est chercheur au CIUS du nord de l'île de Montréal et professeur à l'Université de Montréal.
Mais d'un point de vue politique, Cette conférence de presse-là, à mon avis, était la plus surréaliste, puis Dieu sait qu'il y a de la compétition du côté de Trump, du président américain depuis son retour à la Maison-Blanche, complètement surréaliste. Son ministre de la Santé, son secrétaire à la Santé, qu'on appelle amicalement RFK, M. Kennedy, qui s'intéresse aux questions de l'autisme depuis longtemps. Puis moi, ce que je me suis dit en écoutant ça, on faisait des liens directs. On disait, tu sais, les pays dans lesquels ils ne prennent pas de Tylenol, il n'y en a pas d'autisme. OK, moi, je sais pas pour vous, mais première année de cégep, méthode quantitative, on apprenait les faux liens de causalité. Là. C'est exactement ça à quoi ça me faisait penser. Puis l'exemple que le prof nous avait donné à l'époque, c'était, par exemple, tu dis, ah, dans cette région-ci, les taux de natalité est plus élevé. Mais il y a plus de cigognes dans cette région-là, donc... ce sont les cigognes qui font en sorte qu'il y ait plus de taux de natalité. Puis là, tu apprends qu'il y a un autre facteur qui est que, dans le fond, tu es dans une région rurale, donc il y a plus de cigognes, et c'est ça, dans le fond, ton vrai facteur pour l'autisme. Bref, tu apprends ça, tu as 17 ans. Et là, j'écoutais le point de presse et je me disais, mon Dieu, mais on n'a plus aucun respect pour la science dans ce pays-là. Je veux juste vous attirer votre attention sur un petit angle mort, on en parle un peu moins. Mais quand Donald Trump sort pour en fait, là, il vient de faire crasher l'action de Tylenol.
OK. Donc, quel est son but économique?
Ben, disons qu'il joue beaucoup avec les marchés boursiers. C'est le moins qu'on puisse dire. Il fait monter des actions quand il décide qu'il dit oh, « Je pense que je vais investir là-dedans, moi. Je vais investir, moi, dans ce médicament-là. »
C'est une prétention de croire que...
Ben, écoute, je trouve qu'on joue beaucoup avec les marchés. Si vous regardez l'action de la compagnie qui fait Tylenol, vous allez voir qu'ils ont perdu énormément de points. À chaque fois que M. Trump fait une affaire de même, ça a des impacts boursiers importants. Puis juste... je ne veux pas faire un lien de causalité directe, mais vous dire que la fortune personnelle de M. Trump a augmenté de plusieurs milliards depuis le mois de janvier.
C'est très, très, très intéressant, même si ce n'est pas un lien de causalité directe.
Non, mais tu sais, moi, ça ne me dérange pas, mais laissons les experts parler de ça.
Oui, exactement.
Encore mieux. M. Trump, merci.
Merci, M. Trump.
Antonine Iaccarini, merci. On te réécoute, on se reparle demain à midi. Merci pour ta présence. On fait une courte pause par la suite. Joanie Fortin vient s'installer en studio. On va parler de ce très, 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 très beau défi du Kilimanjaro que Joanie et Pascal vont aller relever pour la Fondation Cerveau. Et Mylène Moisan sera au bout du fil par la suite pour nous parler d'une situation encore une fois problématique du côté de la DPJ. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. C'est l'émission On en jase.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase. Boulevard 102.1 t'accompagne maintenant en semaine avec une programmation 100% parlée. 100% talk.
Ça s'appelle de quoi?
De l'actu, du sport, des élections, du showbiz. Il se passe de quoi? Vous allez le savoir en premier. Il se passe rien? Vous allez le savoir aussi. Boulevard 102.1.
102.1.
Maintenant, 100% parler en semaine.
Le 2 octobre prochain sera marqué au fer rouge comme le plus gros combat de l'histoire des stations de radio à Québec.
Et on a besoin de vous autres. Avec l'aide des auditeurs de R2D2, James Hetfield, Spider-Man, Elton John, on va affronter les autres stations sur plus de 34 machines à boules à la Société du Pinball 999 Pierre-Bertrand.
Lors de cette soirée, la Société du Pinball va couronner une station de radio haute pour le Salon du Pinball qui va se dérouler du 25 au 26 octobre. Avec l'achat de ton billet, cours la chance de gagner une machine à boules d'une valeur de 10 000 $ offerte par la Société du